I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Next Episode, votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio et partout, tout le temps sur Internet, à retrouver à la demande sur vos applications favorites, Apple Podcasts, SoundCloud, Podcast Addict, etc. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment, mais sûrement pas aujourd'hui en fait. Cher Marie Turcan, cher Anaïs Bordage, bonjour et bienvenue en enfer, un enfer totalitaire à très faible taux de natalité, dans lequel nous, les femmes, le premier qui ajoute « nous, le charme se verra crever un œil », sont réduites à trois fonctions : nourrir, jouer les maîtresses de maison ou assurer la reproduction. Martha, épouse ou servante, telle est la condition. On parle de Handmaid's Tale. La saison 1 a fait l'effet d'un uppercut dans le bide. La saison 2 vient de débuter sur OCS Max, un univers glauque, flippant. Dystopique, vous avez dit ? Ouais, vérification dans un instant, juste après l'info du jour. Cumberbatches et Freemaniacs, tout n'est pas complètement perdu pour une prochaine saison de Sherlock. Voici ce que Watson lui-même en a dit lors d'une très récente interview au magazine People.
There's been talk of a fifth season. Is that happening?
I don't know. I mean, there's always time. There's always quite a lot of time between each time we get together. And at the moment, it does feel a little bit like we're on a bit of a hiatus. It does feel like that. Because at the end of the last season, you know, just the writing led you to think, oh, this is the last we're going to see of it for a while, I think, yeah.
Oui, le dernier épisode laissait penser que c'était un goodbye définitif. Oui, c'était peut-être un peut-être mou, avec de multiples points d'interrogation. C'est un peut-être quand même, ce qui est déjà mieux que rien. C'est vrai que parfois les hiatus ont été longs entre deux saisons. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que le OZEF est total ?
Non, ça accroche. Moi, j'adore. En fait, il dit rien du tout dans son interview. C'est juste Benedict Cumberbatch a parlé. Et du coup, on se dit, oh, peut-être que c'est une information. En fait, il dit absolument rien.
Mais là, c'est-à-dire que tout le monde a tellement dit c'est un non fermé définitif que là, d'un seul coup, il y a un ouais, mais peut-être. On sait
pause.
Pas.
Ouais, ouais, tu sais, les pauses, c'est comme dans les relations, ça n'existe pas.
We were on a break. Ouais, peut-être qu'ils sont on a break.
Anaïs, t'y crois ?
Moi, le OZEF est total. Je m'en
fous
complètement. Mais alors,
notre histoire s'arrête maintenant. Si tu n'aimes pas Charlotte,
je suis vraiment désolée. On peut faire une pause, ouais, voilà.
Faisons une pause et flippons tout ensemble.
Is this what freedom looks like? What will happen when I get out? There probably is no out. Gilead is within you.
We can't explain this away. They will say that we're part of the resistance.
If you'd shown that girl 1 ounce of kindness, she would never have left.
I will find every person involved and then they will be punished.
The Handmaid's Tale, saison 2, on retrouve en début de saison June exactement où on l'avait laissée, soit enceinte et en danger. Mesdames, la peur a-t-elle changé de camp ? Spoiler, pas vraiment.
Pas vraiment l'impression que ça a changé de camp. En effet, on est dans une... c'est la saison 2, c'est la libération de June qui va essayer de s'émanciper de tout ça et de faire tomber le régime. On reste dans un premier épisode, alors qu'il devrait être sorti quand le podcast est diffusé, donc on peut en parler, qui est très lent. On se tape une scène de 10 minutes de pendaison, avec gros suspense. C'est un peu... Et en fait, quand j'ai revu ça, je me suis dit, oh là là, ça va mal en fait. Là, on commence à aller dans quelque chose de trop routinier, d'une espèce de torture presque logique et un petit peu systématique des femmes qui du coup un peu dénature le propos de la série. Au bout d'un moment, la souffrance, il faut montrer autre chose, quoi. Il faut pas montrer que les femmes qui se pissent dessus parce qu'on va les tuer. Il y a quelque chose de plus profond à montrer. Donc moi, j'irais plutôt sur l'épisode 2 qui montre vraiment quelque chose de plus intellectuel et un peu plus profond dans les changements de la société que le 1 qui m'a vraiment beaucoup inquiété. Je sais pas si c'était pareil pour
toi. Alors moi, je fais partie des rares personnes, je pense, qui n'étaient pas super emballées déjà par la saison 1. Ouais, je sais. Les regards choqués. Non, enfin, je trouve ça très bien, mais j'ai fait l'erreur monumentale de lire le livre, genre, 3 jours avant le début de la saison 1. Du coup, la comparaison était constante quand je regardais la série, et la comparaison n'est pas vraiment favorable à la série, en fait. Et donc, cette scène de pendaison dans la saison 2, dans le premier épisode, me rappelait beaucoup, en fait, ce que j'avais pas aimé dans la saison 1 déjà.
Trop de suspense.
De suspense qui n'existe pas, parce qu'on sait très bien que June, a priori, ne va pas être pendue dans l'épisode 1 de la saison 2. Donc, il n'y a pas vraiment de suspense. Plus de la confusion, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais il y a une musique pop qui retentit en plein milieu d'une scène dramatique très lourde et qui, du coup, moi, me sort complètement. Et c'était un peu le problème de la saison 1 aussi. Je vois ce qu'ils essayent de faire, mais je n'accroche pas du tout. Je trouve que ça me sort un peu de ces moments qui sont censés être un peu solennels. Quoi, je n'accroche pas du tout.
Oui, vas-y. Et la saison 2, en plus, s'émancipe du livre de Margaret Atwood.
Ouais, et ça, par contre, c'est pour moi le point positif. C'est que, bon, déjà, le livre est un peu plus loin dans ma mémoire, donc je vais arrêter de tout comparer et ce sera beaucoup mieux. Mais aussi, je trouve que la série est vraiment meilleure quand elle va au-delà de ce qu'il y avait dans le livre, et notamment dans l'épisode 2 de la nouvelle saison où on découvre les colonies qui étaient mentionnées dans le livre mais qui n'étaient pas du tout explorées avec la même profondeur. On a des flashbacks qui sont vraiment excellents dans la série, et dans la saison 2, on a de nouveau des flashbacks très très longs et qui nous permettent un peu de comprendre comment on en est arrivé là, en fait, comment ce régime a pu être créé et instauré. Et donc ça, c'est vraiment pour moi le point positif. Donc la saison 2 pour moi est déjà un petit peu mieux parce qu'elle va aller au-delà de ce qu'il y avait dans le livre, et donc ils sont forcés de trouver leur propre histoire, de faire quelque chose de nouveau. Et pour l'instant, je trouve que ce qu'il y a de nouveau est plutôt pas mal.
Après, on est aussi dans une situation où maintenant on arrive après MeToo en tant que société, et donc on est à un moment donné où on oscille entre on a gagné, et en fait on commence à être désillusionné de mais en fait qu'est-ce qu'on a gagné avec ce mouvement. Et donc la saison 2 arrive en fait, le mouvement MeToo s'est passé entre la saison 1 et la saison 2. Donc, eux, ils arrivent là-dedans. Et on n'a pas. Je trouve qu'on ressent un petit peu cette désillusion dans la saison 2 qu'on ressent, nous, aujourd'hui, dans la société, de se dire mais est-ce qu'on va pouvoir arriver à faire changer quelque chose décidément, quoi.
Non, mais les retentissements sont. Pour reformuler la question de départ, on est dans un monde dans lequel le président américain parle d'attraper les femmes par la chatte. Ouais. Où Weinstein pense qu'il va être pardonné, hein, il l'a dit. Où l'avortement, il n'y a quand même pas un mois où on ne s'est pas remis en question par des forces obscures, des illuminés, bien souvent sans utérus. Un monde dans lequel un décérébré en autoproclamé masculiniste fonce dans une foule juste parce qu'il n'arrive pas à baiser des filles, en fait. Est-ce que c'est vraiment une dystopie ou est-ce que c'est un avertissement? Posons la question clairement.
C'est fait exprès comme un avertissement, c'est marqué comme cela, mais c'est surtout les flashbacks qui le montrent extrêmement bien, c'est ce dont tu me parlais. Pour moi, la série, elle est faible quand elle montre juste les souffrances des femmes aujourd'hui. Elle est extrêmement forte quand elle montre le basculement qui est opéré dans les sociétés qui ressemble au nôtre. C'est-à-dire que tu as deux femmes, un couple de femmes mariées qui arrivent devant pour s'envoler au Canada, et tu as juste un mec qui regarde l'état civil et qui dit non, ce papier vaut plus rien. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que ta liberté, elle tient pas seulement à un bout de papier, elle tient à la personne qui lit ce bout de papier. Et donc, il suffit juste que mentalement, on bascule dans le désaccord tacite et de se dire, en fait, maintenant, ce qu'on avait accepté comme une démocratie, comme un respect des droits, ne tient plus à rien. Et c'est que en fait, tout ne fonctionne que par l'acceptation globale et sociétale de tout le monde. Donc, s'il y en a qui décident de plus respecter ce pacte, qui est là pour les en empêcher? Et c'est ce qu'on avait dans la saison 1 avec la fusillade dans la manifestation.
Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve presque les flashbacks plus inquiétant.
C'est
en fait
ça qui m'avait fait trembler, évidemment. Ouais. L'an dernier, c'était au moment
qu'on explique pour ceux qui n'auraient pas vu la série, mais du coup, vous avez déjà pris quelques spoilers. Hein. C'est-à-dire que la série alterne entre cette réalité dystopique dans laquelle les femmes répondent à trois critères, et puis des flashbacks qui montrent comment effectivement la société est devenue totalitaire.
Et il n'y a vraiment que quelques années avant, quoi. C'est-à-dire que c'est un futur très proche. Elles ont quasiment le même âge. Donc, c'est pas il y a 15 ans, quoi. C'est vraiment comme si c'était hier. Et le contraste à chaque fois est ultra frappant. Et par exemple, dans les scènes qui se passent dans le futur dystopique, il y a toujours des petits rappels qui montrent un peu ce décalage, comme quand Emily dit elle soigne des femmes qui sont complètement traumatisées dans les colonies, qui ont des blessures atroces, et qui leur dit tu me laisseras,
disons-le.
Ouais, voilà, ouais. Exactement, et qui sont dans des camps où elles doivent travailler toute la journée, elles sont intoxiquées, et donc elle les soigne, et quand elle reçoit un compliment, elle dit à une des femmes, bah tu me laisseras un beau commentaire sur Yelp, et ça nous remet un peu dans ce contexte où on se dit, ah mais oui, c'est vrai que c'est un univers où en fait il y a Yelp, ou du moins il y avait Yelp, donc c'est le même univers que le nôtre qui a complètement basculé, et donc c'est ces petits décalages comme ça qui sont assez réussis, je trouve.
Si on, justement, moi ces colonies et ce statut d'ouvrière, c'est là où j'ai un peu basculé dans le, ah j'en ai marre. Je trouve que c'est trop. On n'est pas obligé de montrer l'oppression des femmes jusqu'à les faire creuser des mines de soufre, quoi. Enfin, il y a un moment où on avait assez bien compris comment opprimer les femmes d'une certaine manière. Et je trouve que c'est un petit peu là où la série pêche, c'est que c'est une série qui parle à tout le monde. Personne ne peut dire cette série ne me plaît pas. Cette série montre l'oppression des femmes à un tel point, à une telle violence que même les mecs les plus masculinistes vont être obligés de dire bah ouais, franchement c'est pas cool. Franchement c'est pas cool de violer des meufs. En revanche. Mais c'est là où en fait c'est là où c'est son grand défaut aussi, c'est qu'elle a pas cette subtilité que pourrait avoir d'autres séries qui montrent la violence un peu plus douce, enfin un peu plus latente. Là c'est quelque chose de qui va un peu trop loin, et qui, je sais, c'est un peu comme dans notre société quand on parle des droits de l'homme, on va toujours regarder dans les autres pays pour dire regardez, en Russie ils traitent vraiment les homos super mal. C'est aussi une excuse pour pas regarder dans notre pays comment on les traite. Ouais. Et donc on est en parlant de The Handmaid's Tale à ce point-là, de cette manière-là, en se focalisant sur cette série, on oublie un petit peu qu'on est aussi dans une société patriarcale et qu'il y a aussi des choses à faire avancer de notre côté.
Ouais, non, c'est trop en fait, c'est vraiment trop, et du coup c'est assommant en fait, la violence est telle qu'on finit par plus vraiment distinguer quoi que ce soit, et moi ce qui me frustre un peu, c'est tous ces moments je trouve un peu qui manquent de nuances et de subtilité, de un peu de victoire un peu factice, où en fait on nous donne toujours ces 2-3 moments où il y a une chanson un peu de résistance à la fin, ou genre par exemple le fait que June ait une scène de sexe torride avec Nick et que en fait elle en redemande, ou quand elle dit fuck dans sa tête, etc. En fait c'est des petits moments victorieux, ou juste le fait que Emily défonce des mecs en voiture, ou qu'elle se venge d'une maîtresse dans les colonies. En fait, c'est des moments qui n'étaient pas dans le livre, et en fait, c'est des moments de fausse victoire, parce qu'en fait, parfois, le monde est juste pourri, il n'y a pas de petite victoire à la fin, et c'est ça qui me frustre un peu, c'est qu'ils se sentent toujours obligés de rajouter ce petit truc, mais qui sert à rien, en fait, parce que le monde est quand même pourri, et donc ça sert à rien de rajouter juste ces petits moments de victoire qui me paraissent complètement artificiels, quoi.
Oui, et puis là, en fait, moi, je trouve que le problème, c'est pas la violence, mais les violences. C'est-à-dire que là, on a un éventail quand même entre la première et les deux premiers qu'on a vus de tortures diverses et variées qui surtout en fait, que ce soit psychologique, physique, est-ce que vous entendez qu'on puisse dire moi cette série je la trouve exceptionnelle en tout point, maintenant je ne sais pas à qui la recommander en vrai. C'est pas une série plaisir, je peux pas dire t'as 10 heures à tuer.
Le problème, c'est qu'on serait tenté, en tant que féministe avertie, de la conseiller à des gens qu'on a envie de, je mets beaucoup de guillemets, éduquer. Ouais. Dans le sens où tu dis, ah, mais cette série, elle est vraiment super pour comprendre l'oppression des femmes. Mais non, pas vraiment. C'est que ça reste une série que tu regardes en connaissance de cause, et les personnes lambda qui ont pas, sont pas mues par des envies de faire avancer énormément de causes, vont juste la voir comme quelque chose de fort, d'un petit peu sombre et d'un peu violent, mais pas, peut-être pas déceler ces moments qui pour moi font ces moments calmes et ces moments de basculement dans les flashbacks qui font un peu sa grande qualité. Ouais. Donc c'est pas là, j'ai plutôt tendance à conseiller d'autres séries quand on me demande des séries profondément féministes ou des choses qui montrent la violence comme on la vit au jour le jour. Après il n'en déplaise que ça reste une excellente série.
Ah, oui,
et que on aime bien tracher, mais par exemple le fait que dans ces deux premiers épisodes de la saison 2, il y a presque que des femmes, et on voit un peu comment c'est les femmes qui oppressent les femmes, et ça peut extrêmement bien être relié aujourd'hui à notre société, dans le sens où on fait du slut shaming, on est dans le Rihanna ou Beyoncé, on est dans les comparaisons avec les autres femmes en permanence, et le jugement en permanence des autres, et que il faut aussi montrer que le sexisme n'est pas l'apanage des hommes, et je trouve que cette saison 2 va bien le montrer.
Alors le vrai point fort, moi je trouve aussi, de la série, puisqu'on peut maintenant parler des trucs positifs aussi, c'est la représentation des femmes. multiples. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des stéréotypes et elles sont vraiment toutes extrêmement différentes, avec des passifs extrêmement différents et des aspirations et des manières de gérer la douleur très différentes.
Même June, c'est pas du tout une héroïne plaisante. Enfin, je sais. Non. Moi, il y a quand même un peu. T'as un peu du mal à t'identifier quand même à cette. Enfin, elle a des côtés un petit peu sombres, un peu. Enfin, t'as envie d'être de son côté. Elle est badass et en même temps, il y a quand même un petit truc qui te fait. Je sais pas, qui est pas émotionnellement, c'est pas facile de s'adapter à elle, de s'attacher à elle.
Bah en fait, je trouve qu'il y a une distance avec tous les personnages. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je trouve que elles sont tellement. Enfin, c'est voulu, quoi. C'est-à-dire qu'elles sont tellement coupées du monde. Elles portent littéralement des œillères, quoi. Elles sont couvertes en tout point. Et à part June, qui a un monologue intérieur, bah, les autres, on les découvre qu'à travers quelques lignes de dialogue par épisode. Donc, c'est très compliqué pour toutes, en fait, de vraiment les comprendre. Et c'est pour ça que les flashbacks, je trouve, marchent très, très bien. Parce qu'en fait, on arrive un peu plus à s'identifier quand on les voit, quand c'est des femmes comme nous. Ouais. Et que du coup, on doit faire à chaque fois le travail de transposer et de se dire « Ah mais oui, c'est vrai que c'était une personne comme ça et que maintenant, c'est devenu une personne comme ci, quoi. » Mais il y a toujours un peu cette distance, je trouve, qui fait que c'est difficile de s'identifier...
Je trouve qu'il y a un très bon exemple, on en a parlé un peu avant, de la non-identification et la distance qu'on met avec ces personnages, c'est le fait qu'on a quand même pas mal de gens aujourd'hui qui se déguisent en servante écarlate. Mm-hmm. Quand t'as des festivals, il y a des avant-premières, mais partout dans le monde, hein, où tu vois 5-6 femmes déguisées avec leur robe rouge et puis
la coiffe blanche.
Et puis t'as des gens qui viennent se prendre en photo à côté, et puis c'est un peu fun. Et j'avoue que j'ai un tout petit peu de mal avec cette représentation-là, où ça devient un peu comme poser à côté de Wonder Woman de Marvel. C'est pas des super héros. Enfin,
non, c'est pas un déguisement.
Sympa
en fait.
Ouais, je pense que c'est la situation qui est compliquée pour The Handmaid's Tale, c'est que d'habitude, enfin, je sais pas vous, mais pour moi, j'aime beaucoup la dystopie. En fait, j'aime beaucoup ces œuvres-là, et il y a toujours quand même une part de voyeurisme ou de projection quand on voit une œuvre dystopique. On essaye quand même de s'imaginer ce qu'on y ferait dedans, quoi. Ouais. Et les décors de la série sont magnifiques. Enfin, en fait, il y a un côté beau même dans l'horreur qui rajoute, enfin beau pas de la violence ou quoi que ce soit, mais beau dans les décors et dans la photographie, la réalisation, etc., mais qui du coup nous place dans une position étrange parce qu'on apprécie à la fois le côté formel de la série et la musique et enfin vraiment tous ces aspects là qui sont très beaux, très léchés. Et d'un autre côté, on apprécie quelque chose qui est absolument atroce. Et je me demande s'il n'y a pas ce problème-là aussi, où les gens qui se déguisent en servante écarlate ne font pas ressortir ce côté un peu absurde, où en fait l'univers de The Handmaid's Tale est tellement bien construit qu'on a envie de l'aimer, on a envie de l'imiter, alors qu'en fait il est horrible, quoi.
Ouais, mais c'est aussi même, ça tient même à l'histoire, parce que c'est un univers dystopique de mise en scène, où tout est mis en scène, même dans leur manière de vivre, ne serait-ce que les scènes de viol à but reproductif sont des mises en scène. Avec les femmes qui endossent des rôles de comédiennes, enfin, c'est tout est très étrange en fait. Donc c'est peut-être tout ça est imbriqué de manière très.
Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que tous ces moments un petit peu pop de genre de musique un peu pop ou de moments de victoire, je trouve, sont déplacés parce que du coup ça nous donne presque envie de se mettre à leur place en se disant ouais, en gros elle a réussi, elle est badass, etc. Alors que non, en fait elle est juste dans un monde horrible et enfin de l'héroïne dans le livre, c'est vraiment une meuf faible en fait. Quoi. Elle n'est pas du tout badass, elle est peureuse, elle est faible et elle n'a pas du tout envie de participer à la résistance. Mmh. Elle veut juste faire sa vie et résister du mieux possible elle-même, enfin survivre, quoi. Mais elle n'a pas ces espèces d'instincts de meuf ultra intrépide qui va les regarder dans les yeux et leur lancer un regard un peu défiant pour leur montrer qu'elle ne va pas se laisser faire, quoi.
C'est marrant, ça veut quand même dire qu'on peut pas adapter qu'on est obligé d'avoir un moment d'attribuer des attributs un petit peu plus bah, on dit badass, mais on veut dire masculin, on veut dire guerrier, on veut dire un peu revanchard. Exactement, on est quand même là dans une espèce d'aseptisation du livre.
Ouais, parce que c'est très en vogue en ce moment et c'est tant mieux. Enfin, c'est toujours cool d'avoir plein de personnages badass à la télé. Je vais pas du tout m'en plaindre, mais il y a ce côté, je pense, un peu artificiel, je trouve, dans cette série-là, pardon, parce que on le retrouve dans plein d'autres séries. Il y a toujours effectivement cette obligation d'avoir une femme forte, le cliché de la femme forte ou le personnage féminin fort, alors qu'il y a plein de femmes qui sont intéressantes et qui sont complexes, mais qui sont faibles en fait. Et la June du livre, elle est juste faible et peureuse, et on s'identifie même à elle pour ça en fait, parce qu'on se dit
dit bah moi je suis pas badass, moi si
bah,
je me retrouvais
la même question, qu'est-ce que si j'étais à sa place,
j'aurais
fait, je suis quoi,
ouais
en
voilà
fait.
Bah moi j'aurais rien fait, j'aurais attendu patiemment la mort,
j'aurais pas
ou,
coupé ton oreille dans,
voilà, et donc en fait ces moments de défiance du coup moi ils me sortent un peu du truc parce que je me dis bah en fait non, j'ai pas besoin qu'elle soit badass à tout moment, j'ai juste besoin de voir un peu ouais ce que ça serait la vie sous ce régime là quoi.
Et puis avec les, on parlait des costumes, mais en fait faut aussi se rappeler que c'est un gros plan com aussi, et que du coup Hulu en ce moment ils ont entre les mains un produit un peu étrange parce exactement. Qu'ils ont envie de faire de la thune là-dessus et ils ont envie de mettre en avant leur série.
C'est compliqué de faire du merch.
Exactement. Comment tu fais du merch? Mais non, c'est exactement ça. Ce qu'on a. Tu peux ouais. tu peux pas vraiment capitaliser là-dessus, et pourtant c'est leur plus gros succès en ce moment.
Ouais. Des étriers à ouais. essayer chez vous.
Et même Game of Thrones avait réussi quand même à sortir de ça. Il y avait pas mal d'autres manières de tu posais pas à côté de Ramsay Bolton avec sa saucisse. J'aurais pu, ceci dit.
Ouais,
mais là, Hulu est dans une position un peu ambivalente, quoi. Et justement, un peu victime de ses propres faits qui sont, ils sont allés trop loin dans la violence. Et du coup, comment tu capitalises là-dessus?
Oui, parce qu'en plus, si tu dois surenchérir à chaque épisode, parce qu'on a déjà tellement vu de formes de violence différentes, comme tu disais, que, enfin, je sais pas comment ils vont
tenir.
Ce serait
extrêmement intelligent d'aller justement maintenant dans la douceur et dans quelque chose de plus susurré et un peu moins montré, quoi. De vraiment montrer les répercussions
et
mentales.
Et l'intrigue politique, quoi. Je crois qu'on va voir un peu plus du rôle, par exemple, que Serena a joué dans le développement de ce régime politique.
Qui est pas loin d'être un des personnages qui me fascine le plus, je dois dire.
Bah ouais, parce que justement,
Serena, qui est donc la femme de l'homme pour qui June doit procréer, pour le faire un peu près simple.
Et qui est assez atroce, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ce que tu disais, en fait, même dans la diversité des femmes qu'on voit, il y a aussi des femmes qui sont sexistes, en fait, et, ou qui sont misogynes,
coupables.
Et qui sont conservatrices, et qui sont plein de choses que cette femme est. Et...
Elle cristallise un truc atroce, mais en même temps, elle est absolument fascinante.
Ouais.
Et aussi grâce à cette femme dont je n'arrive jamais à prononcer le nom, Yvonne Strahovski.
Non, l'actrice est très bien. Et
elles sont toutes très bien, si on doit dire un truc quand même très positif.
Et Alexis Bledel, qui est quand même pas connue pour son jeu d'actrice formidable dans Gilmore Girls, est
elle est incroyable.
Moi, c'est cœur avec les doigts pour Samira Wiley, Forever.
Ah oui,
on la voit effectivement. On n'a pas encore vu dans la saison 2,
non,
je crois.
Non, on la voit
Mais ouais.
D'ailleurs, fun fact, on parle du fait qu'il y ait deux comédiennes qui étaient dans le pénitencier de Litchfield qui soient dans cette série quand même. Je ne pense pas que ce soit un hasard. C'était Janine. C'était Trisha dans Orange is the New Black.
Ah oui, c'est vrai.
Ah bah ouais, voilà.
C'est vrai.
C'était mon petit côté trivia du jour.
Ouais.
On la reconnaît pas sans son
œil. On peut quand même parler de Netflix, même quand on parle pas de Netflix.
C'est ça devient une obsession. On touche des points à chaque fois. On a mis quelques réserves, mais on est quand même d'accord que ça reste une très grande série.
On est ravis.
Oui. On est ravis. Oui. Hein,
avec plein de femmes réalisatrices, qui est aussi assez rare. Et pour le coup, elles sont toutes très, très talentueuses.
Et si je vous demande une petite recommandation avant la fin de l'émission?
Moi, je vais faire ce que je fais tout le temps quand on parle de The Handmaid's Tale, c'est que je recommande. Non, ça, c'est toi, Annalise. Attends, c'est mon tour. Je recommande Big Little Lies, qui est sorti exactement à peu près au même moment en 2017, ouais. Avec des femmes fortes, une violence pour le coup très beaucoup moins dite et montrée, et pourtant qui prend à la gorge, qui prend aux tripes, qui est portée par exactement des actrices merveilleuses également, mais aussi des rôles masculins très forts, et qui pour moi était la série féministe de l'année l'an dernier, ouais. Alors que The Handmaid's Tale était sortie au même moment. C'est quoi? C'est 8 épisodes de c'est une mini-série qui en fait aura une saison 2 avec Nicole Kidman, Reese Witherspoon
et Meryl Streep
maintenant.
On le sait, ils ont donné des photos.
C'est vrai, voilà. C'est vrai. Nicole a
tweeté, a instagrammé. Anaïs,
Moi, puisqu'on parlait de femmes badass, une série dont on parle, Buffy, dont je n'ai parlé. Non, je voulais parler de Killing Eve, qui est une série dont on parle beaucoup en ce moment, qui est donc la nouvelle série de Phoebe Waller-Bridge, qui avait créé Fleabag
et Crashing.
Et donc là, qui n'a rien à voir, puisque c'est une série d'espionnage, donc avec Sandra Oh, Christina Yang de Grey's Anatomy, qui joue une espionne, qui travaille plus dans l'administratif, on va dire, mais qui travaille au MI5 et qui, ou MI6, je sais plus lequel des deux.
MI, quoi.
Et qui donc se lance à la poursuite d'une tueuse internationale jouée par Jodie Comer, et donc les deux sont fantastiques. C'est assez rare de voir un duo d'actrices comme ça. Il y a quasiment pas d'hommes dans la série, même si tous les rôles sont extraordinaires, et notamment Sandra Oh et Jodie Comer, qui sont incroyables. Sandra Oh, je crois que c'est la première fois qu'elle a un rôle principal dans une série, et vraiment elle fait un travail extraordinaire. C'est très très drôle parce que c'est quand même Phoebe Waller-Bridge, donc même si c'est une série d'espionnage avec voilà des perruques et des changements d'endroits sur la planète, etc. On a quand même l'humour très british de Phoebe Waller-Bridge qui vient un peu pimper tout ça.
Voilà, vous avez les deux recommandations du jour. Et puis pour Handmaid's Tale, c'est évidemment sur OCS Max. Merci beaucoup Anaïs Bordage, merci Marie Turcan. Next épisode, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain, même heure.
François Truffaut disait que Johnny Guitar avait été fait sur mesure pour John Crawford.
Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Séance Radio, retrouvez Flashback.
Le film a en effet la réputation d'être le tournage le plus dangereux de l'histoire du cinéma.
Pour tout connaître de l'actualité des grands classiques du 7e art, avec Antoine Cyr et Antoine Julien et sur toutes les applications podcast.